votre matinale info sur Europe 1.
Anthony Favalli.
Bonjour, bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. On est ravis de vous accueillir. 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot. 45 minutes d'analyse, de débat sur l'actualité forte du jour avec bien sûr notre ami Guillaume Bigot. Bonjour.
Bonjour Anthony, bonjour à tous.
Guillaume Bigot, politologue, et face à vous ce matin, c'est Régis Le Sommier, grand reporter. Bonjour Régis.
Bonjour Anthony.
On va commencer par parler de cette fin de mois, des fins de mois difficiles pour beaucoup de Français. En ce dimanche 25 septembre, vous commencez à bien le sentir sur votre porte-monnaie. C'est vrai que la rentrée a été difficile, beaucoup de dépenses à faire, conjuguées à l'inflation. Et pour beaucoup d'entre vous, vous gagnez trop pour percevoir des aides, mais pas assez pour pouvoir vous en passer. Vous faites partie de ce qu'on appelle les classes moyennes. On est allé à votre rencontre justement sur une brocante de Châtillon, en région parisienne, et pour beaucoup, vous vous sentez oublié par l'État. Le reportage Kinson et Solène Boulan.
Claire est une jeune retraitée. C'est avec amertume qu'elle nous raconte son train de vie.
Vous doutez bien qu'avec 1000 euros de loyer, presque 1100 euros de loyer et 1500 euros de retraite, quand vous n'avez pas mangé, que vous n'avez pas payé les charges, la voiture, l'essence, en plus vous voyez le prix de l'essence. On parle pas d'économie là, hein. On parle juste de survie.
Avec 1500 euros par mois, elle ne perçoit aucune aide financière de l'État.
C'est une vraie galère, mais je suis encore une vénarde, on va dire. Parce qu'il y a des gens, je connais des nanas qui gagnent 900 euros et qui ont des loyers de 500 euros. C'est presque encore pire. Et les vêtements en bas,
c'est 1 euro. Le quotidien de Sylvie est aussi marqué par les privations. Ancienne enseignante, en reconversion professionnelle, elle touche le chômage. Avec son mari, il gagne au total 2 500 euros par mois, avec deux enfants en bas âge.
On voit très nettement la différence toutes les semaines quand on va faire les courses au supermarché. On doit faire plus attention parce que voilà, on est dans une classe moyenne, mais finalement, on s'attend vers le bas, quoi. La classe moyenne, compliquée, quoi.
Aurélien est directeur technique. Avec sa femme, il gagne plus de 4000 euros par mois. Il se décrit comme chanceux, mais avec deux enfants, ils ont appris à vivre différemment.
Quand on voit que le gouvernement nous demande de réduire notre température de chauffage à l'intérieur, enfin, on se demande jusqu'où ils vont aller pour nous demander de faire des économies. Jusqu'à la fin de l'année, avec les impôts, c'est un peu plus compliqué. On pioche dans les réserves.
Puiser dans les ressources, c'est précisément ce que redoute cette classe moyenne, trop souvent oubliée des aides publiques.
Guillaume Bigot, dans ce reportage, on entend clairement ces intervenants, cette classe moyenne qui se sent déclassée, pour qui finalement on n'a pas vraiment de solution. Mais tout d'abord, comment on pourrait définir ces classes moyennes ?
Je pense qu'on peut le définir par rapport à la situation des 30 Glorieuses, c'est-à-dire... que vous aviez quand même dans l'idée de classe moyenne, on entend un bloc qui représente les deux tiers finalement de la population dans un pays développé comme était la France au terme des 30 Glorieuses jusque dans les 70-80. Vous aviez les deux tiers de la population qui étaient plus proches, on va dire, des 20% qui gagnaient le mieux leur vie et plus éloignés des 10% qui gagnaient le moins bien leur vie, pour faire simple. Et ça s'est effondré, ça s'est effrité. Donc la classe moyenne des années 70, qui est une classe à la fois massive, les deux tiers, à la fois qui est, encore une fois, en dynamique, avec des revenus qui seront plus importants dans les années à venir, mais pour leurs enfants plus importants, etc. Et qui est dans une situation où elle ne se sent pas riche, mais elle se sent plus proche des riches que des pauvres, d'une part, et d'autre part, elle ne compte pas son argent. On est maintenant 40 ou 50 ans après. Et la situation a complètement changé. Et là où on a un phénomène massif, c'est qu'il y a eu une fonte des glaces. Il y a eu finalement une proportion qui s'est inversée. C'est-à-dire que les deux tiers de cette France centrale, moyenne si vous voulez, elle est descendue vers le bas. Et elle est maintenant beaucoup plus proche des 10% de gens qui gagnent moins bien leur vie et de plus en plus loin des 20% qui gagnent mieux leur vie. Alors, c'est donné par quoi ? Le SMIC, c'est un point de repère. On ne peut pas être payé moins que le SMIC en France. 1500 euros brut. Si vous vous rendez compte que le salaire moyen en France est de 2200 euros net, mais que le salaire médian, encore plus intéressant, parce que ça partage vraiment en deux...
La population voilà, en deux parties égales. En deux égales. Blocs,
exactement. 1000, alors c'est facile, c'est mémotechnique, hein, c'est la référence de la Révolution française, parce que je pense qu'on n'est pas très loin de quelque chose dans ce goût-là. 1789 euros net. C'est ça qu'on appelle la classe moyenne. C'est-à-dire, en fait, c'est la paupérisation de tous les Français. C'est-à-dire que tous les Français, les deux tiers, les trois quarts des Français, comptent leur argent pour finir leur fin de mois. Ils ne peuvent pas acheter tout ce qu'ils veulent à leurs enfants, etc., etc. Ils travaillent dur.
Mais alors Guillaume, maintenant, j'ai une question.
Je vous en prie. La photographie synthétique et générale la plus nette qu'on puisse donner.
Guillaume Bigot, est-ce que les politiques ont délaissé cette classe moyenne? Est-ce qu'il y en a encore qui s'adressent à eux? J'ai l'impression qu'on parle régulièrement à ceux qui ont de l'argent, à ceux qui n'en ont pas, les plus démunis aussi, aux minorités, mais finalement les classes moyennes.
Une des réactions... En fait, je pense que le problème de fond, c'est le ralentissement en tendance de la croissance, la désindustrialisation. Phénomène qui s'est installé sur le long terme, sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui a tout à voir avec le fait d'accrocher notre roue dans l'Allemagne, avec le fait d'avoir une monnaie surévaluée, avoir interdit le protectionnisme, avoir ouvert de manière unilatérale l'Europe alors que les autres pays, et notamment l'Asie et l'Amérique, continuaient à avoir des protections, etc. Ce sont des phénomènes, disons, de fond. L'apport d'une immigration qui fait sans arrêt baisser les salaires et qui permet d'avoir une main-d'œuvre qui, d'ailleurs, n'est quasiment pas déclarée, pèse à la baisse sur les salaires. Tout ça, c'est des phénomènes de fond, disons. Maintenant, le sentiment, si on en revient à un sentiment politique pour répondre à votre question politique. Bah oui, cette classe moyenne, elle a l'impression d'être la vache à lait. Elle a l'impression d'être la vache à lait parce qu'elle est imposable. Souvent, elle est juste au-dessus, donc elle paye quand même l'impôt sur le revenu. Je vous rappelle qu'il y a, là aussi, c'est très important, il faut gagner un petit peu plus que le SMIC. Bien sûr, vous avez des phénomènes de quotas familiaux quand vous êtes en couple, quand vous avez des enfants, un enfant, deux enfants, etc. Mais donc vous pouvez échapper un peu à l'impôt sur le revenu, vous payez très peu, mais grosso modo, dès lors que vous payez un tout petit peu plus que le SMIC, vous êtes imposable sur le revenu, quand vous êtes seul en tout cas. Et bien là, vous rendez compte qu'il y a plus de gens qui ne payent pas l'impôt sur le revenu que de gens qui en payent, ce qui montre la paupérisation. Et donc cette classe moyenne, qu'est-ce qu'elle se dit? Entre guillemets, moyenne. Hein. Elle se dit quoi? Elle se dit, un, nous sommes les vaches à lait, on paye. Ça veut dire que les autres ne payent pas. C'est les autres, qui les autres? Les 10% de gens les plus pauvres. Mais ça correspond aussi à une immigration qu'on fait venir constamment, dont on n'a plus besoin et qui va aggraver le tableau des finances publiques, hein, qui va donc aggraver nos impôts. Et nous n'en bénéficions pas. Deuxième mécanisme et phénomène, c'est le dire, mais en fait, nous avons des services publics. Nous payons énormément d'impôts, directs et indirects, et nous avons des services publics qui... chaque année, chaque décennie, se dégrade. Donc pourquoi on paye tant pour avoir aussi peu en face? Et vous le voyez bien avec les mesures qui sont prises, le gouvernement à la fois continue dans cette politique, c'est-à-dire de réserver l'essentiel des aides sociales aux gens qui sont les plus démunis, d'une certaine façon ça peut se comprendre, ce qui crée ce phénomène de vache à lait, la grogne qui avait déclenché les gilets jaunes. Mais en même temps, le gouvernement, regardez par exemple le bouclier tarifaire, les aides qui sont réservées à la limitation de la hausse, par exemple, de l'énergie, tout ce phénomène-là, ce mécanisme-là et les aides à la pompe, c'est pour tout le monde, parce que justement, ils ont peur que ça soit inflammable.
Vous savez quoi, juste avant de donner la parole à Régis Le Sommier pour vous répondre là-dessus, je voudrais qu'on s'intéresse avec Elisa Lukavski à ce que le gouvernement apporte justement à ces classes moyennes et puis à l'ensemble des Français pour répondre au problème actuel, celui de l'inflation. Elisa Lukavski, quelles sont les aides en cours?
Eh bien, Guillaume en parlait. Il y a d'abord ces aides qui vont profiter à tous les Français, comme la remise carburant qui a été instaurée le 1er avril et qui, depuis le 1er septembre, est de 30 centimes d'euros par litre à la pompe. Elle sera réduite à 10 centimes entre le 1er novembre et le 31 décembre. Il y a également le bouclier tarifaire pour limiter l'impact des hausses des prix de l'énergie. Mis en place il y a un an, ce bouclier sera prolongé l'année prochaine. À partir de janvier, la hausse des prix du gaz, elle sera limitée à 15%. Même chose pour l'électricité le mois de février. Autre coup de pouce qui profite à tous, la suppression de la redevance télé, 138 euros d'économisés par foyer ayant une télévision. Il y a ensuite les aides ciblées, cette fois en fonction des revenus, comme l'aide exceptionnelle de rentrée de 100 euros, majorée de 50 euros par enfant à charge. Près de 11 millions de ménages modestes ont reçu cette prime mi-septembre. Le chèque énergie, lui, qui va de 100 à 200 euros, il sera versé à plus de 12 millions de ménages modestes, tout comme l'aide au fioul du même montant pour les ménages modestes qui utilisent ce moyen de chauffage. Enfin, il y aura des aides qui seront à la discrétion des patrons. C'est le cas de la prime Macron qui a été renommée la PPV, la prime de partage de la valeur. Elle peut aller jusqu'à 6 000 euros en fonction des situations. C'est une prime exonérée d'impôts sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.
Elisa Lukavski, merci à vous. Régis Le Sommier, Est-ce qu'il y a une offre politique aujourd'hui qui répond à ces classes moyennes plus globalement ?
Je ne pense pas qu'il existe en fait de coloration politique pour les classes moyennes. En fait, je pense qu'elles sont assez partagées. Et je pense que, comme Guillaume l'a bien expliqué, la question des classes moyennes, justement, c'est la différence entre les classes moyennes élevées et les classes moyennes basses. Et c'est dans cette fourchette basse que peuvent se produire les mouvements de société les plus importants et qui peuvent provoquer justement des cataclysmes. On a évoqué les gilets jaunes. Je crois que les gilets jaunes...
Mais c'est une majorité qui a longtemps été silencieuse et puis finalement qui s'est exprimée en dehors des combats syndicaux à travers les gilets jaunes, par exemple.
On l'a vu, effectivement, très peu de prise sur le mouvement des gilets jaunes de la part des syndicats et une colère, en fait, qui s'est révélée qui était intéressante parce qu'en fait, c'était la colère des gens qui avaient tout bien fait et qui n'arrivaient plus à vivre. C'est-à-dire, ils avaient payé leurs impôts, ils avaient payé leurs amendes, ils avaient voté, ils avaient... Enfin, voilà, ils cochaient toutes les cases. En fait, peut-être une définition supplémentaire de la classe moyenne, c'est aussi des gens qui ont un comportement civique, je dirais, exemplaire. Et tout à coup, une partie de cette classe moyenne a glissé dans la pauvreté. On ne l'a pas vu venir. Ça a été déclenché. On voit qu'un certain nombre d'aides de l'État, c'est pas simplement, justement, une situation liée au contexte international, à la crise de l'énergie, mais surtout, ces aides de l'État sont liées, justement, à l'essence, au gaz, parce que il y a peut-être un risque là aussi qu'il y ait un bis repetita de ce phénomène. On se souvient que les gilets jaunes ont été déclenchés précisément par des histoires de prix de l'essence à la pompe, un prix d'ailleurs qui était nettement moindre qu'aujourd'hui. Hein. Donc je crois que ces classes moyennes, elles ne sont pas dans la révolte, c'est pas dans leur ADN, mais quand elles le font, ça peut donner un mouvement de fond et malheureusement, on pense toujours aux gilets jaunes des émeutes sur les Champs-Élysées, mais on pense assez peu à ceux des ronds-points qui avaient été la majorité des gilets jaunes. Et là, on avait vu des scènes, souvenons-nous, de gens qui le 11 du mois n'arrivaient plus à payer, qui avaient des enfants et qui justement incarnaient ces classes moyennes qui avait glissé dans la pauvreté. Donc le risque aujourd'hui, c'est ça. Et le risque, c'est qu'il y a des mouvements de société, justement, un ressentiment, une vraie colère par rapport à tout ce qui a été décrit, par rapport au fait que les plus riches, ils sont de moins en moins proches des classes moyennes. Et puis les plus pauvres, on a l'impression que les classes moyennes payent pour eux. Voilà. Enfin, les classes moyennes ont cette impression-là.
Quel est le risque à ne pas répondre aux attentes, aux besoins des classes moyennes ?
Il est est-ce que c'est un risque ou est-ce que c'est une issue? En tout cas, c'est le triomphe du populisme partout. On va relier ça à la question politique. C'était votre question tout à l'heure. Elle est très importante. Quand Régis dit, il y a une classe moyenne élevée, il y a une classe moyenne basse. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a plus de classe moyenne élevée. C'est que ce qu'on appelait auparavant, les classes populaires, qui avaient un revenu, vraiment limité, c'est maintenant la situation des classes moyennes. Si vous voulez, les classes moyennes sont les pauvres des années des 30 glorieuses. Les pauvres, c'est la misère et c'est l'immigration. Je vous la fais courte, mais c'est ça. Et les classes moyennes supérieures se sont mis dans un paquet où il y a effectivement un phénomène de polarisation qui est un phénomène de polarisation géographique, phénomène de polarisation, donc les grandes villes soulevées par les vents de la mondialisation, phénomène de polarisation politique, ce sont les derniers qui votent pour les partis de gouvernement et maintenant qui ont fait une sorte de syndicat qui s'appelle la République en marche ou Renaissance, je ne sais plus trop quel est le dernier slogan en date, et qui vraiment, c'est sauf qui peut. Et vous avez ensuite une polarisation avec ces gens-là, vont de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'au cours des 30 dernières années, eux, leurs revenus ont explosé. Donc vous avez 20% de la population, classe moyenne supérieure et gens très très aisés qui vivent à part, qui ont fait sécession. Vous avez les deux tiers de la population qui sont tombés dans une situation de précarité. Et ceux-là n'ont pas d'aide, effectivement, ceux-là payent des impôts, et comme dit Régis, ils font tout bien. Et vous avez enfin, la dernière partie, qui était les gens qui étaient modestes, la classe ouvrière, ce qui restait de la classe ouvrière, et eux sont tombés dans la pauvreté, carrément. Et on peut totalement comprendre ce qui s'est passé politiquement au cours de ces 30-40 dernières années, dans les grandes lignes, puisque vous aviez des partis de gouvernement, c'est-à-dire vous aviez la classe moyenne qui votait, d'une part, elle ne vote plus, et qui votait avec... disons, les gens de la haute, c'est-à-dire les 20% les plus aisés, pour des partis, Parti Socialiste, LR, maintenant La République En Marche, etc. Et donc, ces partis de gouvernement se sont littéralement effondrés, parce que cette classe moyenne, elle ne s'y retrouve plus. Et vous aviez des partis qui étaient des partis contestataires, comme le Parti Communiste, ensuite le Rassemblement National, Front National, etc., qui étaient des partis qui ne s'adressaient que à la classe ouvrière. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ces partis, pour le mécanisme que je décris, parce que les anciennes classes moyennes sont les nouveaux pauvres, qui votent maintenant pour des partis populistes. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a un avenir, il y a un boulevard qui est historique, qui est écrit. C'est que grosso modo, comme le barycentre électoral, il est dans les classes moyennes, il est dans les deux tiers de la population. Là, ce qui sauve encore la mise des gens qui profitent du système, au détriment des autres d'ailleurs, en faisant venir toujours plus d'immigrés, qui pèsent sur les comptes sociaux, en reprochant d'avoir des aides, en reprochant d'avoir des allocs, alors qu'ils créent les conditions pour qu'il y ait des aides et des allocs, évidemment. Eh bien, en fait, il va y avoir un décrochage politique le jour où les classes moyennes cesseront de s'abstenir.
Alors, Guillaume Bigot, Régis Le Sommier, je voudrais qu'on parte à Lyon, là où on parle des vrais problèmes. Alors, je dis ça entre guillemets, entre très, très gros guillemets. Alors que les Français sont préoccupés par le pouvoir d'achat.
Je sens un point d'ironie, là.
Oui. Oh, à peine. La mairie écologiste veut utiliser une enveloppe d'1 million d'euros allouée par la région pour installer notamment des urinoirs féminins. Une enveloppe qui, à l'origine, devait être destinée au déploiement de caméras de vidéosurveillance. Toutes les explications avec Thomas Chama, on en discute juste après.
Des urinoirs mixtes plutôt que des caméras de vidéosurveillance pour renforcer la sécurité dans les rues lyonnaises. C'est la réponse du maire de la ville à la proposition de Laurent Wauquiez, qui souhaitait subventionner l'achat de ces équipements de vidéoprotection.
Nous avons proposé effectivement ces urinoirs aussi féminins et de les développer dans la ville parce que tout simplement un homme ne se comporte pas de la même manière quand il est entouré uniquement d'hommes ou s'il est dans un environnement équilibré. On ne veut pas faire croire à nos concitoyens et à nos concitoyennes qu'il suffirait d'un coup de baguette magique avec des caméras de vidéosurveillance par exemple, pour améliorer les conditions de sécurité.
Dans le détail, grâce au financement offert par le Conseil régional, la majorité écologiste voulait équiper entre autres la ville de Barrière-Bélier anti-véhicules, de talkie-walkie et de chasubles pour les organisateurs de manifestations, ou encore de ces fameux urinoirs publics.
À Lyon, on a plusieurs quartiers où on a de très nombreux problèmes. Par exemple, à la Guillotière, il y a quelques caméras, mais l'ensemble du secteur n'est pas couvert. C'est pour ça qu'avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et Laurent Wauquiez, nous avions proposé 1 million d'euros au maire de Lyon pour installer des caméras. Et là, finalement, sa réponse à côté de la plaque pour nous expliquer qu'il se servirait de ses sous pour acheter des médiateurs et des urinoirs, ce n'est absolument pas à la hauteur de ce que les Lyonnais peuvent attendre.
Une nouvelle controverse qui risque de refroidir un peu plus les relations entre la ville et la région.
Alors Guillaume Bigot, je vous connais, je sens que vous appréciez le sens des priorités de la mairie de Lyon.
C'est quelque chose qui mérite effectivement qu'on s'y arrête parce que, si j'ai bien compris, il faut qu'il y ait des toilettes, des urinoirs notamment, qui soient mixtes.
Tout à fait.
C'est ça qu'on comprend. D'accord. Bon, donc, si j'ai bien compris aussi, la mairie de cette ville est pour le burkini, elle est pour l'importation, on va dire, de populations qui sont dans un patriarcat moyenâgeux, type 7e siècle ou 8e siècle.
On rappelle que le burkini, c'était Grenoble, en tout cas, la polémique sur le burkini.
Autant pour moi. Mais grosso modo, je pense que cette sensibilité politique-là, elle est assez favorable à une immigration massive. Elle est assez favorable aussi à un discours, on va dire, de tolérance, pour rester poli, à l'égard de mœurs qui sont des mœurs ultra-patriarcales, qui séparent radicalement les hommes et les femmes, dans lesquelles, finalement, les femmes n'ont pas le droit de paraître en place publique, sauf complètement voilées. Et donc ça, pour eux, ça leur pose pas de problème. En revanche, ce qui leur pose énormément de problèmes, c'est que les hommes et les femmes aient des toilettes différentes. Donc, vous voyez bien qu'il y a quelque chose là qui tourne pas rond. Enfin, ça fait erreur 404, c'est un bug, je pense que ça se mélange dans leur tête. Moi, je pense que si on va plus loin, on se dit qu'il y a une démarche quasiment suicidaire. C'est-à-dire de créer des conditions d'abolition, de toute abolition, au risque du bon sens de ce qui sépare même naturellement les hommes et les femmes, pour ensuite avoir une politique qui est incroyablement tolérante à un discours ultra-patriarcal qui est très méprisant à l'égard des femmes. Deuxième commentaire, bon, donc les hommes et les femmes pourront faire pipi ensemble, si je comprends bien, mais alors il n'y aura pas de caméra de vidéosurveillance, c'est ça? Parce qu'on a préféré faire...
Non, il n'y en aura pas davantage, effectivement.
Il n'y en aura pas davantage. Mais c'est l'argent qui était destiné aux caméras.
C'était alloué par la région Auvergne-Rhône-Alpes, de Laurent Wauquiez,
Les hommes et les femmes font pipi ensemble, mais ils pourront aussi se perdre leur sang ensemble, se faire tabasser ensemble, sans vidéo-caméra, pour identifier les auteurs.
Moi, ce qui me choque le plus, peut-être, on entendait cet élu, justement, nous expliquer pourquoi, en fait, il n'y avait pas besoin de caméra vidéo. Il y a même eu une régression dans la ville d'à côté, donc à Grenoble, il y avait des caméras vidéo et certaines ont été enlevées immigrés. Et depuis, évidemment, la criminalité a explosé dans les quartiers où il y avait ces caméras vidéo, en tout cas ces projets d'implantation. Tout ça a été arrêté. Moi, ce que je ne vois pas là-dedans, c'est le rapport entre des urinoirs et des caméras vidéo. C'est-à-dire que qu'on s'attaque à, que les urinoirs mixtes soient peut-être nécessaires, j'en doute pas. Hein. Il y a peut-être trop d'urinoirs pour hommes et pas assez pour femmes. Ça, c'est une
chose. Alors, l'argument, c'était que ça contribuait à la sécurité, manifestement.
À la sécurité.
Oui, ça contribuait à la sécurité.
Mais c'est là où
les hommes se comporteraient différemment lorsque les urinoirs sont.
On sait que Lyon est devenu, souvenez-vous, ils avaient proposé, je ne sais pas où ça en est, mais de faire des couloirs de vélo non genrés, c'est-à-dire où les femmes seraient en vélo et les hommes seraient interdits dans ces couloirs-là. Donc il y a une sorte d'expérimentation permanente dans cette ville, et on le sait, c'est aussi également le cas à Grenoble et à Bordeaux à cause de la coloration de ces maires. Mais le problème, c'est que à Lyon, il y a un vrai problème d'insécurité que ces caméras vidéo ont prouvé à d'autres endroits qu'elles sont nécessaires et qu'elles peuvent faire justement contribuer. On parlait de la Guillotière, mais c'est évidemment la Duchère, la Guillotière, mais en particulier la Guillotière, qui, je le rappelle, est un quartier du centre-ville de Lyon dans lequel on n'arrive pas à endiguer ce fléau de la criminalité, de l'immigration clandestine. Enfin, il y a tout dans la Guillotière et évidemment du trafic de drogue.
Alors, quel est le rapport entre... On va poursuivre dans un instant parce qu'il est 8h30 et c'est l'heure du rappel de l'actualité, 8h30 sur CNews Europe 1 avec Elisa Lucafi.
Dommage.
Et je vous redonne la parole. Tout de suite. Ouais. Ne vous inquiétez pas.
Paris.
Moscou durcit les peines contre les déserteurs en pleine mobilisation de ses réservistes. Pour aller combattre en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a signé des amendements prévoyant jusqu'à 10 ans de prison pour les militaires qui désertent ou qui refusent de combattre. Il a également signé une loi qui facilite l'accès à la nationalité russe pour les étrangers qui s'engagent pour une durée d'au moins un an dans l'armée. Des dizaines de morts et des centaines d'arrestations en Iran hier. De nouvelles manifestations ont eu lieu hier soir pour protester contre la mort d'une jeune femme arrêtée par la police, Mahsa Amini, le 16 septembre, trois jours après son arrestation pour ne pas avoir respecté le code vestimentaire de la République islamique. En Iran, les femmes doivent se couvrir les cheveux et le corps jusqu'en dessous des genoux et ne doivent pas porter des pantalons serrés ou des jeans troués. Et puis du sport avec la quatrième journée de Top 14, la victoire de Toulouse face au Racing 92 hier, un succès 37-10. 4 essais ont été inscrits côté toulousain. Une victoire bonifiée à l'arrivée qui permet aux Toulousains de prendre la tête du Top 14 devant Montpellier. La Rochelle, qui joue ce soir contre Clermont, peut reprendre les commandes en cas de victoire. Ça sera à suivre sur Canal+, à 21h05.
Et nous parlions donc des priorités de la mairie de Lyon. Est-ce que la mairie de Lyon, Grégory Doucet, le maire, vous semble-t-il déconnecté des réalités, Régis Le Sommier ?
Moi, je pense qu'il l'est. Hein. Il l'a démontré à plusieurs reprises. Et justement, ce qui est terrible, c'est de vivre dans une ville comme Lyon et de l'avoir vu se dégrader à ce point. Et aujourd'hui, d'en être à prioriser des questions d'hygiène publique, mais qui sont nécessaires de par ailleurs. Mais à dire que l'enveloppe des 1 million va être fait pour créer des urinoirs mixtes et au détriment de caméras vidéo, je ne comprends pas la logique de cette démarche. Comme si, en fait, il y a quand même toujours ce présupposé idéologique derrière que la caméra vidéo serait une intrusion dans votre espace privé, qu'il y aurait une sorte de flicage. On voit George Orwell derrière. En réalité, il s'agit de résoudre concrètement des problèmes de deal, des problèmes d'immigration clandestine et des problèmes de criminalité dans précisément un quartier de Lyon qui s'appelle la Guillotière. Quel est le rapport ?
Mais les caméras ont un énorme problème pour ces gens parce que précisément les caméras montrent la vérité.
Oui.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on enregistre les images, on a des images et on ne peut plus nier le réel. Alors, sauf à faire comme M. Darmanin, faire détruire les bandes juste après. Mais grosso modo, là, si vous avez des images, vous ne pouvez pas nier que c'est faux. Et donc ça, c'est évidemment gênant. On comprend pourquoi ils veulent éliminer les caméras. Mais c'est peut-être pas très clair tout à l'heure. Je pense qu'il y a quelque chose qui est à interroger dans, si vous voulez, une démarche qui me semble une démarche globalement suicidaire. Vous avez une pulsion, je dirais, de suicide dans la civilisation occidentale qui est spécialement exprimée par les partis écologiques. Parce que, en fait, vous avez une idée qui est de faire venir des gens qui nous détestent. Toute immigration n'est pas un danger, n'est pas problématique. Mais là, vous faites venir, par exemple, des mineurs isolés, des hommes jeunes venant de pays ultra-patriarcaux, ultra-islamistes, qui nous détestent. Vous les faites venir. Bon, première fois qu'un pays fait venir des envahisseurs, c'est assez frais, ok. Mais ça, ils sont tout à fait d'accord pour ça. Deuxièmement, vous les provoquez par des mesures. Vous savez qu'ils viennent d'un pays qui a grosso modo 640 d'âge mental. Enfin, ils sont au 7e siècle, ces gens-là. Et vous les provoquez dans les classes ou les provoquer dans l'espace public en fabriquant des choses qui vont au-delà de, enfin, qui plaident pour l'absence de séparation totale entre les genres, voire même pour que les petits garçons jouent avec des poupées, avec un Afghan qui arrive du fin fond des montagnes d'Afghanistan, mais c'est complètement fou. Donc vous voyez bien que là, il y a une volonté de provocation, il y a une volonté de créer de la violence, finalement. Et puis, il y a cette idée, avec les caméras, mais c'est pas la seule idée, hein. Il y a le fait de désarmer la police, etc., tout ce discours. Plus vous avez une montée de la violence, et plus vous proposez en face de diminuer la réponse pénale. Et enfin, pour boucler la boucle, vous proposez que les femmes ne fassent plus d'enfants, parce que sinon, jeudi prochain, ce sera la fin du monde. Vous mettez ça, tout ça, bout à bout, vous vous rendez compte qu'il y a un vaste projet de seppuku, de suicide collectif, en fait. C'est ça, le projet politique. Notre projet, c'est que nous disparissions.
Guillaume Bigot, Régis Le Sommier, on avance. Ce fléau récurrent dans le département de l'Essonne, les rixes entre bandes de quartiers rivaux, cela fait parfois des victimes parmi les jeunes eux-mêmes. Et puis au quotidien, c'est un enfer pour les riverains qui les subissent. Cette semaine, ce sont une quarantaine de véhicules qui ont été détruits sur leur passage. Le reportage, Fabrice Elsner, Jeanne Cancard et Valérie Labonne.
Habitante du quartier du Pré-Barallon à Saint-Germain-les-Arpajons, Sabrina a été brutalement réveillée autour de minuit dimanche dernier.
C'est quand on a regardé par la fenêtre et qu'on a vu les jeunes en train de tout casser les voitures avec les battes de baseball ou des morceaux de bois, des morceaux de ferraille, tout ça.
Ils sont plusieurs dizaines de jeunes d'une cité de Brétigny-sur-Orge à saccager les voitures en quelques minutes. Sabrina et ses voisins ne peuvent que constater les dégâts. Selon des témoins, tout est parti d'un différend entre cités lors de la foire aux haricots qui se déroulait à quelques centaines de mètres. En réponse, la bande rivale a organisé le lendemain un match retour en représailles dans la cité des Ardrais. Des saccages organisés que ce réparateur de pare-brise observe régulièrement.
Les actes de vandalisme comme ça, il y en a souvent. On les font toute une rue ou tout un parking.
Pour les habitants, cette violence gratuite est incompréhensible, d'autant que c'est à eux de payer la facture.
Ça va nous coûter quelque chose, oui. Parce que c'est à nos charges, en fait. Alors que nous, on n'y est pour rien et tout.
Une quinzaine d'individus ont été interpellés par la police. La plupart étaient déjà connus de leur service. Ils sont tous sous contrôle judiciaire en attendant leur procès qui se tiendra le 28 octobre prochain.
Alors Guillaume Bigot, en 2021, 129 affrontements recensés dans le département de l'Essonne. Déjà depuis le début de l'année, 41 affrontements recensés. On a trois jeunes, dont deux de 14 ans, qui ont été tués également l'an dernier. Et cette difficulté à répondre au problème, puisque c'est une violence qui n'est pas adossée à de la criminalité, du trafic de drogue par exemple. Et c'est de la violence purement gratuite. Comment on lutte contre cela aujourd'hui? Et comment on l'explique aussi?
En fait, il faut rappeler une évidence, c'est que l'adolescence est l'âge le plus conformiste de la vie. L'adolescence, c'est l'âge où vous dites merde à vos parents. Mais vous ne pouvez pas dire merde à des modèles que vous nécessairement vous trouvez et vous cherchez. Et alors évidemment, en suivant que vous êtes plus ou moins construit, que votre famille est plus ou moins construite, vous avez un quotient intellectuel plus ou moins élevé, etc., vous résistez plus ou moins à des pressions de ce type. Hein. Mais grosso modo, vous ne pouvez pas. Alors, en général, soit la société... Et toutes les sociétés humaines jusqu'à nous proposaient des modèles alternatifs aux parents, qui étaient des modèles adultes, qui permettaient de structurer et de former les adolescents. Ce que les islamistes ont très bien compris, ils fonctionnent très bien comme ça. Vous prenez un adulte qui est un ancien, et il dit aux jeunes, bon écoutez, moi je vais vous proposer un modèle, et je vais vous sortir d'ailleurs de votre culture, de votre sous-culture adolescente. Et ça marche très bien. Mais ça marchait très bien avant, quand on avait des organisations de jeunes, des scouts, ça marchait très bien avec le service militaire, etc. On a renoncé à faire ça. On a renoncé à faire ça pour plein de raisons, parce qu'on est dans le jeunisme, parce qu'on commence à avoir peur de nos propres jeunes. Je vous renvoie à Platon sur le début de la tyrannie, c'est quand les pères ont peur des fils, et on en est là. Et je pense qu'on nous considère aussi... donc le premier phénomène, c'est que voilà, ces jeunes, ils sont laissés livrer à eux-mêmes. Et ils ont un besoin impératif d'identité, ils ont un besoin d'appartenir à un groupe, ils ont besoin d'appartenir à un territoire, c'est un besoin naturel du mammifère humain, et ils ont besoin... d'admirer d'un leader. Donc, ils trouvent un leader de bande. Cette bande, elle va s'organiser sur une base territoriale. Et à partir de là, va s'enclencher quelque chose de terrifiant, mais que la littérature connaît bien. Si vous lisez La Majesté des Mouches de William Golding, c'est exactement ça. Ça raconte au 19e siècle comment un bateau anglais s'échoue sur une île et les jeunes, de 8 ans à 16-17 ans, se retrouvent entre eux. Plus d'adultes. eh bien, il tombe dans la sauvagerie totale. Parce que la folie de Rousseau, c'est de croire que l'enfant naît bon, naturellement bon. Il n'est pas bon. Il arrache les ailes de mouche, il n'a aucune espèce de pitié. Les enfants qui restent entre eux, qui se structurent entre eux dans des bandes dites entre pères, peuvent être extrêmement violents. Et là, il y a un mécanisme terrifiant qui est à l'œuvre. C'est-à-dire que vous avez, si vous n'êtes pas dans la bande, vous n'êtes plus un humain. Donc on peut vous détruire. Et le groupe va jouir en plus du pouvoir qu'il a de faire peur aux adultes, etc., etc. C'est très intéressant ce phénomène parce que ça montre aussi que vous ne pouvez pas jouer au malin avec le sentiment d'appartenance à un groupe et à un territoire.
Ce qui est terrible, c'est, vous le dites, c'est un problème que l'on rencontre déjà dans la littérature. Donc ça date.
Mais ça a toujours, ça a toujours existé. Si vous n'avez pas de rite initiatique, voilà. si les adultes n'ont pas de modèle, de contre-modèle pour sortir, parce qu'à un moment, les adolescents se révoltent contre leurs parents, mais il faut qu'ils aient un autre modèle.
Il y a une petite dimension quand même assez aussi intéressante sur la question de la... je vais revenir sur ce qu'a dit Guillaume, sur la territorialité, justement. Là, ce qui est intéressant dans ces bandes et dans le développement, on a vaguement évoqué une fête qui aurait mal tourné, un différend autour d'une fête. Il y a donc un sentiment d'avoir été agressé, que le groupe collectivement a subi une humiliation.
Et ensuite,
il faut la venger. Et là, on va la venger en faisant quoi? Non pas en attaquant comme on faisait d'habitude, entre guillemets, d'habitude, la bande d'à côté, mais en détruisant tout ce qu'il y a dans le quartier. C'est-à-dire qu'en fait, en pénalisant aussi des gens qui font partie de ce quartier, qui n'ont rien à voir avec la bande rivale, mais qui ont juste le malheur d'être dans la périphérie définie. Donc c'est vraiment... On parle de l'archipélisation de la France, ou en tout cas voilà, là, on a défini un territoire ennemi à côté, et dans ce territoire, il faut tout détruire. D'où le sentiment de faire en fait une... comme faisaient autrefois les envahisseurs, c'est-à-dire des razzias. C'est-à-dire on arrive et on détruit tout. Et donc on va détruire la voiture, et on voit bien, c'est pas en plus quelque chose lié à un phénomène ethnique purement, puisque cette dame noire dit ben ouais, c'est nous qui allons payer. Donc tout ce qui est dans le quartier d'à côté, n'importe quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son statut social, est bon à la vindicte pour gérer un problème qui est lié finalement à une confrontation de bandes rivales. Donc en fait, c'est une histoire de recréation du monde. Vous avez raison, je pense, de caractériser ça justement sur la question de l'identité. Mais cette identité, elle est très étroite, elle est extrêmement forte et elle se déploie justement dans l'espace public. Et aujourd'hui, donc, je pense qu'avec ce genre de phénomène, on passe encore un cap dans l'abandon de cette jeunesse. On passe encore un cap dans le fait qu'on ne peut plus rien faire. Parce que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va revenir sur les poncifs qu'on sort régulièrement. Oui, il faut un travail à l'école. Oui, il faut un travail au niveau des familles. Mais que dire quand on a cet état d'esprit que le quartier d'à côté doit être rasé?
Ça pose plusieurs questions. Déjà, comment répondre aux besoins d'une nécessaire sanction pour les auteurs de ces méfaits, et puis aux besoins de justice des citoyens pour aussi ceux qui subissent ces méfaits, surtout lorsque les commissariats, les tribunaux sont en sous-effectif pour traiter les dossiers. C'est le cas à Toulouse, ça va être une illustration de ce phénomène. Depuis 20 ans, la métropole accueille de plus en plus d'habitants, ça veut dire aussi plus de délinquance, mais les effectifs de police et de justice ne progressent pas aussi vite. Résultat, eh bien, il faut au minimum 18 mois pour qu'un méfait soit jugé au tribunal. Le reportage Jean-Luc Thomas, et on réagit juste après.
55 000 procédures sont en souffrance au commissariat de Toulouse. Ce chiffre en dit long sur le lent déclin de la justice toulousaine. Depuis des années, il y a un manque d'officiers de police judiciaire.
Nos collègues de l'investigation, tant en flagrant délit qu'en préliminaire, sont en souffrance permanente malgré leur travail acharné chaque jour. Et il faudrait, comme je vous dis, abonder en effectif.
Des solutions sont mises en œuvre.
Le parquet vient sur place, mais une à deux fois le mois par service, ce qui est insuffisant.
Pour 2023, seulement 4 OPJ arriveront dans les effectifs. Impossible alors de réduire les plaintes en souffrance, surtout qu'il manque aussi au tribunal judiciaire une centaine de juges, greffiers ou parquetiers.
Les justiciables sont mécontents et ils ont raison. Tous nous nous rendons compte qu'on ne peut pas répondre aux besoins de justice de nos concitoyens. Nous avons besoin de personnes qualifiées pour pouvoir suivre les dossiers, pour pouvoir les juger et pouvoir les rendre dans des délais raisonnables.
Depuis 20 ans, à Toulouse, la population augmente, la délinquance et les plaintes aussi. Pourtant, la ville reste une des juridictions les moins bien dotées en France. En moyenne, il faut au minimum 18 mois pour être jugé.
Et Guillaume Bigot, ça nous ramène finalement à l'Essonne, 18 mois pour être jugé. Comment la sanction pénale peut-elle faire peur, peut-elle intimider, peut-elle empêcher de produire, que ces méfaits se produisent, en tout cas dans ces départements, que ces rixes se produisent par exemple?
Enfin, le lien avec le sujet effectivement des rixes, les rixes concernent parfois des auteurs extrêmement jeunes, en dessous de 16 ans, donc de la majorité pénale. La réforme de la justice pénale qui a été entreprise par le garde des Sceaux a refusé qu'il y ait des mesures d'enfermement, de privation de liberté. Je pense que c'est la clé. C'est-à-dire qu'une... Mais je ne suis pas le seul à le dire. Enfin, tous les gens qui regardent de très près ces phénomènes d'ultra-violence dans la jeunesse prescrivent la même chose. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une réponse pénale, rapide. Et donc, on voit bien que les problèmes matériels du nombre de places de prison, du nombre de fonctionnaires, du budget alloué à la justice... Évidemment, ça pose problème, mais la réponse doit être très rapide et ça doit être un enfermement, une privation de liberté. Pourquoi ? Parce qu'il y a besoin de contenir et de sanctionner très rapidement. Mais ça ne sera pas, c'est pas la seule solution. Je pense que l'idée, c'est redonner une identité. En fait, si vous voulez, on a dit aux gens, mais vous n'avez pas besoin de vous sentir français, vous pouvez vous sentir citoyen du monde, vous pouvez vous sentir européen, etc. C'est la mondialisation. Et en fait, on voit bien que nous sommes des mammifères, on pisse aux quatre coins, on a besoin d'un territoire. Et quand vous ne répondez plus à ce besoin, eh bien, les gens de Dourdan vont dire, nous sommes de Dourdan, et nous attaquons les gens de Saint-Chéron. Et quand bien même, ils ne seraient pas d'origine immigrée, quand bien même, ils ne seraient pas dans des trafics de stupéfiants. On voit de manière chimiquement pure ce besoin d'identité. Donc soit on refait une nation, soit on refait un service militaire, soit on arrête aussi avec l'idée que le courage et le courage physique ne seraient plus une valeur. Il faut arrêter avec cette mièvrerie. La jeunesse, elle a aussi besoin d'héroïsme. Elle a besoin... Donc tant que l'adulte n'est plus perçu comme celui qui incarne l'autorité, ça ne peut pas fonctionner. Donc refaire les manuels scolaires, refaire un roman national... rétablir le service militaire et évidemment avoir des réponses pénales rapides et proportionnées.
Mais si on va prendre la direction de New York aux Nations Unies, les États-Unis imposent-ils une dictature à leurs partenaires et notamment les Européens? Ce sont les propos de Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, à la tribune de l'ONU. On l'écoute.
Les États-Unis et leurs alliés aujourd'hui ne laissent le choix à personne. Ils menacent ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, leur tordent les bras, notamment en les incitant et en les obligeant même à se joindre aux sanctions qui visent la Russie. Il ne s'agit pas d'une logique démocratique, c'est de la pure dictature, selon moi. Nous avons l'impression que Washington et l'Europe qui lui est soumise souhaitent aujourd'hui maintenir leur hégémonie en utilisant exclusivement des coups interdits.
La tribune de l'ONU, l'Assemblée générale, qui est censée être un lieu de discussion, manifestement, on sent que la conversation est rompue entre les Russes et les Occidentaux. On a Sergueï Lavrov qui accuse également l'Occident d'une russophobie grotesque et sans précédent. Guillaume Bigot.
C'est-à-dire que M. Lavrov est crédible sur la dénonciation de l'unilatéralisme américain, de l'extraterritorialité du droit américain, de l'hégémonie américaine, tout ça est vrai. Le problème de la Russie, c'est qu'elle tombe dans ce qu'elle dénonce. Quand elle dénonce un George Bush qui a violé la Charte des Nations Unies, qui a attaqué un État souverain, qui a tué peut-être 200 000 civils, qui a torturé, qui a bombardé, tout ce que fait la Russie aujourd'hui en Ukraine, la Russie, elle n'est pas très crédible maintenant depuis qu'elle a fait la même chose en Ukraine. Tout le problème est là. Donc, je pense que l'idée, c'est vraiment de dire ils ont fait la même chose, alors nous aussi, on a le droit de faire la même chose. Et là où c'est un problème, c'est qu'effectivement, la France en particulier, je ne parlerai pas de l'Europe, parce que pour moi, l'Europe n'a pas d'unité politique, mais elle a une unité économique, si vous voulez, ou monétaire. L'Europe, la France, elle était particulièrement bien placée en raison de son histoire, la position de De Gaulle dans la guerre froide, qui a été poursuivie par la position de Jacques Chirac dans l'invasion justement américaine inique de l'Irak, et aussi dans une parce que elle était par exemple avec l'Allemagne garante des fameux accords de Minsk en Ukraine, et donc ça donnait à la France, disons, une légitimité, une crédibilité particulière dans cette situation-là pour mettre derrière elle tous les pays qui refusent et l'impérialisme américain et l'impérialisme russe. Le problème de la France, c'est qu'elle s'est sagement et docilement couchée à côté du maître américain, comme le reste des Européens d'ailleurs.
Régis Le Sommier, Washington s'est érigé quasiment en envoyé de Dieu sur Terre, sans aucun devoir, mais avec le droit sacré d'agir avec impunité n'importe où et n'importe quand. C'est ce qu'ajoute Sergueï Lavrov aux propos qu'on vient d'entendre tout à l'heure.
Sergueï Lavrov caractérise dans ses propos et dans son attitude, les Russes en général, un changement géostratégique majeur dans le monde qui est en train de se produire sous nos yeux, avec cette guerre en Ukraine, qui va bien au-delà de la question de la guerre en Ukraine. Moi, je me souviens d'une interview qui avait été donnée au journal Le Monde par Ramzan Salamé, le grand diplomate libanais, qui expliquait que précisément la guerre en Irak en 2003 et le caractère illégal de cette guerre, le caractère d'une guerre basée, rappelons-nous à l'époque, sur des mensonges, ces fameuses armes de destruction massive.
Parce que ça s'appelle l'ordre international.
Voilà, Monsieur Salamé disait que cette guerre avait provoqué une dérégulation de la force. C'est-à-dire que les États-Unis, qui étaient le gendarme du monde jusqu'à présent, depuis la fin de la guerre froide, la Russie ayant pris un rôle secondaire, même si la Russie n'a depuis cessé d'essayer de revenir de façon majeure sur la scène internationale. Donc il y a une énorme frustration chez les Russes. Mais en tout état de cause, ce qui était la façon dont le monde était agencé, c'était autour des États-Unis. Et avec cette guerre en Irak, finalement, cette dérégulation de la force, les États-Unis se mettant à agir comme un état voyou, eh bien les autres l'ont imité. Les Turcs ont commencé à s'agiter, les Chinois ont commencé à s'agiter, les Russes, finalement en se disant, puisque le gendarme du monde agit de manière illégale, pourquoi nous ne le ferions pas nous-mêmes, pour nos intérêts? Et c'est là où il y a vraiment quelque chose dans cette guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit Monsieur Biden, lui, quelques jours avant Monsieur Lavrov, parler de principes démocratiques et dire que c'est le principe qu'on applique et que c'est la meilleure chose, non, je suis désolé, quand les États-Unis envahissent Irak, ce n'est pas une affaire démocratique, ce n'est pas une affaire de principe ni de valeur. Et quand on foule au pied ces valeurs, et bien ensuite quand d'autres le font, les Russes ont l'habitude de le faire, on le sait, mais on vient pas s'en plaindre et on vient pas encore une fois agiter le chiffon en disant nous sommes les gardiens du temple. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on sait très bien que les pays agissent suivant leur intérêt. On est revenu dans un monde multipolaire ou peut-être bipolaire, une nouvelle guerre froide qui est en train de se mettre en place, et chacun des pays, ce dont se plaint Monsieur Lavrov sur la vassalité de l'Europe aux États-Unis, quelque part aussi, c'est on choisit son camp. Et tout le monde est en train de choisir son camp. Regardez, c'était comme pendant la guerre froide. La Turquie est devenue une sorte de Yougoslavie bis, ou un pays non aligné, qui a des rapports avec les uns et des rapports avec les autres. Donc il va y avoir une reconstitution des échanges internationaux. Aujourd'hui, de manière économique, moi je reviens, j'étais en Russie, j'ai pu constater quand même à quel point aujourd'hui il y a un axe commercial anti-sanctions qui s'est mis en place entre Moscou, Istanbul et Dubaï. Et l'émergence des Émirats aujourd'hui est considérable. Et comme par hasard, les Émirats n'ont pas condamné l'intervention des Russes en Ukraine. Pourquoi? Pour des raisons économiques et financières. C'est-à-dire qu'ils récupèrent aujourd'hui un certain nombre de franchises de sociétés qui souhaitent continuer à commercer avec le marché russe. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se font à Dubaï, beaucoup de choses qui se font à Istanbul, notamment en diplomatie. Nous, on est un peu à côté maintenant, malheureusement, on est dans le camp des Américains, donc on agit suivant ce que dit Monsieur Biden.
Le mot de la fin pour Guillaume Bigot, il nous reste une minute.
Je pense qu'il faut toujours savoir où on habite, donc je pense que la France est une alliée de longue date des États-Unis, des pays anglo-saxons, et grosso modo, et c'est normal que la France se tienne du côté des démocraties. Mais ça ne veut pas dire qu'on confond nos intérêts avec ceux des États-Unis d'Amérique. Aider militairement l'Ukraine, pourquoi pas? Je vous rappelle que la Turquie est toujours membre de l'OTAN, est toujours alliée des États-Unis. La Turquie, d'ailleurs, a vendu des drones à l'Ukraine qui sont appréciés. Nous, on a donné nos canons et on s'est infligé des sanctions qui nous pénalisent. La Turquie ne s'est pas infligé ces sanctions. Donc, on n'a pas. Je pense que le problème, c'est d'être. C'est vraiment la vassalisation. Et on a vu cette déclaration absolument scandaleuse de Madame von der Leyen sous fond de drapeau américain. Si vous voulez, ça Monsieur Macron avait bien senti que l'OTAN était en mort cérébrale. Là, l'Union européenne l'a réveillé.
Merci à mes deux invités pour cet échange. Guillaume Bigot, politologue. Régis Le Sommier, grand reporter. Vous êtes parti en Ukraine, c'est ça, Régis Le Sommier. Vous avez réalisé là-bas un reportage.
Oui, un documentaire qui paraîtra le 16 novembre pour une nouvelle chaîne, nouveau média d'enquête et de documentaire qui s'appelle Omerta. Et ça sortira sur une application et il y aura une grande soirée au Grand Rex le 16 novembre pour présenter ce documentaire.
Le rendez-vous est pris. Merci à vous, Régis Le Sommier. On va rejoindre désormais Sonia Mabrouk depuis les studios d'Europe 1. Bonjour Sonia, on vous retrouve tout à l'heure à 10h pour le grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Échos. Et qui est votre invité aujourd'hui ?
Bonjour à vous Anthony, bonjour à tous. Notre invité, il est de retour d'Ukraine, c'est Bernard-Henri Lévy à 10h.
Et sur quel thème allez-vous donc l'interroger, Bernard-Henri Lévy ?
Alors évidemment, Anthony, toutes les questions que l'on se pose, Vladimir Poutine est-il vraiment affaibli? Qu'en est-il politiquement, économiquement, militairement? Et puis faut-il prendre au sérieux cette menace nucléaire? Et j'ajoute, puisqu'il est sur votre plateau en ce moment, que le grand reporter Régis Le Sommier va nous rejoindre tout à l'heure pour échanger avec Bernard-Henri Lévy. Ce sera très intéressant, je pense, d'avoir leurs deux visions de la guerre, du terrain et des relations internationales.
Eh ben c'est parfait, il aura juste le temps de faire le déplacement pour vous retrouver juste après la matinale à 10h. Merci Sonia Mabrouk, on vous retrouve. Le grand rendez-vous CNews Europe 1, Les Échos, avec comme invité du jour Bernard-Henri Lévy, philosophe. Vous restez avec nous sur CNews, la matinale week-end continue dans quelques instants. Et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Lénaïque Monnier et Frédéric Taddeï. C'est arrivé demain. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1.